Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 7h.
Je vous le dis bien dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez ? Rien. Ni là, ni dans d'autres affaires.
Nicolas Sarkozy, déterminé à prouver son innocence aujourd'hui. Premier procès pour l'ex-président, celui des écoutes. Il est accusé de corruption et de trafic d'influence. 60% des Français prêts à se faire vacciner, mais seulement 20% tout de suite. Sondage BVA qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Mais sommes-nous prêts à la lancer, cette campagne de vaccination ? Réponse dans un instant. Dans ce journal, grand dossier sur le bilan des destructions d'emplois. Pendant les 6 premiers mois de l'année, certains départements résistent, d'autres pas du tout, comme les Hautes-Pyrénées.
Dernier jour de travail, 14 mars, et depuis, chômage. Et tant qu'on ne saura pas, on ne pourra rien envisager.
On s'intéressera aussi à Amazon, épouvantail pour de nombreux commerçants qui crient à la concurrence déloyale. Et pourtant, ils sont plus de 10 000 à utiliser la plateforme pour vendre leurs produits. Et puis, cette jolie constatation d'un jeune breton.
Au Moyen-Âge, je crois, ils n'avaient pas d'Internet. Donc, ils faisaient avec des mots, ils criaient.
Et oui, comme au Moyen-Âge, on entend en ce moment des crieurs de rue à Dinan.
Il n'y avait pas Internet.
Incroyable.
Au Moyen-Âge. Il n'y avait pas le télétravail non plus. Du coup, va-t-on enfin fixer un cadre au télétravail ? L'éclairage éco de Nicolas Barré après ce journal. Le sommet du G20 ce week-end en visioconférence. Le regard international de Vincent Hervouette. L'édito sport de Virginie Fulpin. Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Contrairement à Jacques Chirac, jugé pour détournement de fonds publics et qui n'a jamais assisté à la moindre audience de son procès, Nicolas Sarkozy a bien l'intention d'être là tous les jours pour son premier rendez-vous judiciaire. L'ex-président se retrouve donc aujourd'hui devant un tribunal pour corruption.
C'est ce qu'on appelle l'affaire des écoutes ou l'affaire Paul Bismuth. Vous allez nous la remettre en tête. Chloé Triomphe, bonjour.
Bonjour.
Tout part des écoutes de juges sur les lignes de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog.
Oui, effectivement, et c'est dans le cadre d'une autre enquête, l'affaire libyenne, que pendant plusieurs mois, à partir de fin 2013, les magistrats écoutent les deux lignes de l'ancien chef de l'État et de son avocat Thierry Herzog. Je dis deux lignes car l'une est officielle et l'autre, disons, confidentielle, puisqu'elle a été ouverte sous un faux nom, c'est la fameuse ligne Paul Bismuth. C'est en réalité le patronyme d'un ancien camarade de classe de Thierry Herzog, et dans le jargon policier, on appelle ça un TOC pour téléphone occulte.
Et qu'est-ce qui interpelle les enquêteurs dans ces conversations ?
Eh bien, Nicolas Sarkozy et son conseil échangent sur des renseignements qu'ils cherchent à obtenir sur la décision que doit rendre la Cour de cassation au sujet de la restitution des agendas de l'ancien chef de l'État qui ont été saisis par la justice. Et dans ces conversations, il est question d'un haut magistrat de la Cour, Gilbert Azibert, qui pourrait les aider et un peu plus tard, du petit coup de pouce que Nicolas Sarkozy pourrait lui rendre en échange pour l'obtention d'un poste à Monaco. Finalement, les renseignements donnés se sont avérés faux, le magistrat n'a jamais eu le poste et Nicolas Sarkozy conteste avoir intercédé, accusé de corruption, vous l'avez dit, et trafic d'influence, tous espèrent obtenir une relaxe.
Merci Chloé Triomphe, et vous avez pu rencontrer en exclusivité Maître Ivens avant cette audience. C'est l'avocat de Thierry Herzog, et pour lui, circuler, il n'y a rien à voir.
Tout repose dans ce dossier sur des bribes et des extraits de conversation entre un avocat et son client, qui sont montés en épingle ou mis abusivement en relation, pour venir à l'appui d'une thèse qui ne résiste pas à l'examen. Ce qui est grave, c'est que ce sont des conversations entre un avocat et son client. Et donc, il y a un véritable problème de secret professionnel, du secret des avocats. Et dans cette affaire où on a écouté tout le monde, on a interrogé tout le monde, nous démontrerons que ça ne tient pas la route une seule seconde. Quand on entend corruption, on entend parler de trafic, d'argent. Dans cette affaire, il n'y a pas un sou. Il y a des conversations entre amis dont on tire des conclusions qui ne correspondent pas à la réalité.
Et le procès doit s'ouvrir en début d'après-midi devant le tribunal correctionnel. Il pourrait être reporté à la demande de Gilbert Azibert pour raison médicale. Et puis devant la cour d'assises spéciale, le procès des attentats de janvier 2015 doit reprendre après 3 semaines de suspension. Le principal accusé malade du Covid y assistera en visioconférence, ce que contestent de nombreux avocats.
7h04 sur Europe 1. 6 Français sur 10 d'accord pour se faire vacciner contre le Covid. Résultat du sondage BVA pour Europe 1 que nous dévoilons ce matin. C'est quand même un oui mais si on regarde dans le détail, car seulement 20% envisagent de le faire dès que possible.
Oui, on va revenir en détail sur ce sondage à 7h30, mais reste à savoir si la France est prête pour une grande campagne de vaccination. Bonjour Adrien Beck.
Bonjour.
C'est le branle-bas de combat au sein de l'exécutif.
Oui, branle-bas de combat à la mesure de l'accélération du calendrier. On ne parle plus en mois, mais en semaines avant la disponibilité d'un vaccin. Alors, dans les ministères concernés, les réunions s'enchaînent. Emmanuel Macron lui-même s'investit personnellement. Il a organisé il y a 10 jours à l'Élysée une réunion avec les ministres en charge du sujet. Une autre devrait avoir lieu cette semaine. Les réponses à apporter sont essentielles. Qui vacciner en premier et quand ? Faudra-t-il par exemple passer par son médecin traitant, avoir une ordonnance ? La Haute Autorité de Santé doit fournir un protocole dans les prochaines semaines. Et puis, comment transporter, comment conserver ce vaccin ? Enfin, et surtout, il faudra convaincre les Français d'aller se faire vacciner. C'est le gros défi du gouvernement. Ces derniers jours, Jean Castex a prévenu ses ministres : nous ne devons pas rater le tournant du vaccin. Il reste de fait au gouvernement très peu de temps pour arriver à bien négocier ce tournant.
Adrien Beck. Et en attendant le vaccin, priorité toujours au dépistage. Des opérations pilotes de tests antigéniques sont lancées ce matin dans une trentaine de lycées d'Île-de-France. Ça concerne les personnels et les élèves volontaires.
Crise sanitaire et crise économique vont de pair, évidemment, et toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Arrêtons-nous ce matin sur cette intéressante étude du cabinet Arthur Lloyd, spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. Bonjour Olivier Samin.
Bonjour.
Vous avez pu consulter cette carte des destructions d'emplois au premier semestre de cette année, Olivier. Elle fait clairement apparaître deux France.
Oui, il y a la France qui parvient à limiter la casse et celle qui a pris de plein fouet le choc de la crise sanitaire avec très vite d'importantes destructions d'emplois. Je commence par cette deuxième France. Ces départements dans le centre, le Grand Est, une partie du bassin parisien, souvent à dominance rurale, où il y a beaucoup de contrats précaires et de missions d'intérim qui n'ont pas été renouvelés à partir de mars-avril. On trouve aussi dans cette France-là des départements dont l'activité est fortement liée au tourisme. Et on sait que le tourisme a beaucoup souffert du confinement.
Alors justement, restez avec nous Olivier, on va prendre un exemple. Les Hautes-Pyrénées, effondrement de l'intérim et tourisme à l'arrêt, ces deux facteurs conjugués, eh bien, ils entraînent la perte de 9% des emplois. Vous l'avez constaté à Tarbes, Benjamin Péter.
Oui, je me suis notamment rendu dans l'agence Adéco de Tarbes où le directeur Olivier Ducastin voit les CV d'intérimaires dans l'aéronautique s'accumuler sur son bureau.
C'est tous les CV des personnes qui sont sans emploi et on est en train de travailler justement pour arriver à reclasser ces publics.
Ici en mars, 170 intérimaires travaillaient chez Daher, un gros sous-traitant du département, il n'en reste plus que 25.
L'impact, il a été immédiat. L'aéronautique pour Adéco, Tarbes, ça représentait 45% de notre chiffre d'affaires. Maintenant, 10% même pas. S'il ne rentre pas des commandes, on n'en retrouvera pas, quoi qu'il en soit, les chiffres d'avant le premier confinement. Il faudra du temps.
L'autre secteur en crise, c'est le tourisme. À Lourdes, 2500 saisonniers se sont retrouvés au chômage, comme Jérôme que j'ai rencontré. Il travaille en station de ski l'hiver, dans une brasserie à Lourdes l'été et n'a aucune perspective.
Dernier jour de travail, 14 mars, et depuis, chômage. L'avenir sur Lourdes, aujourd'hui, il n'est pas loin de zéro, donc du coup, ça fait des insomnies. L'équilibre financier de la famille qui avait été bâti, il est tout par terre. Et tant qu'on ne saura pas, on ne pourra rien envisager.
D'autant plus préoccupant que son épouse, elle aussi, est saisonnière au chômage et son plus grand-fils apprenti dans l'aéronautique. Une voie qu'ils avaient pourtant choisie ensemble pour ses débouchés dans la région.
Benjamin Péter, à Tarbes pour Europe 1.
Olivier Samin, vous nous parliez de deux France. La deuxième, celle qui réussit à limiter la casse, elle est où ?
Alors pas de surprise, ce sont les départements qui bénéficient de l'attractivité d'une grande métropole, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Lille. Dans ces grandes villes et dans les territoires qui les entourent, la diversité du tissu économique a permis d'atténuer le choc. Il y a quand même une exception qui est surprenante, l'Île-de-France. On pensait que son dynamisme la mettrait à l'abri, ben non. La région capitale concentre plus d'un quart des destructions d'emplois enregistrées dans toute la France au premier semestre. L'explication, c'est sa très forte exposition à des métiers qui ont énormément souffert avec le confinement, le tourisme, l'événementiel, la culture et le coup d'arrêt des activités aéroportuaires.
Enquête que vous nous dévoilez ce matin, Olivier Samin, et je retiens, retenons que l'Île-de-France représente plus d'un quart des destructions d'emplois.
Et puisqu'on parle des difficultés économiques, on entend beaucoup la détresse des petits commerçants, qui devraient d'ailleurs pouvoir rouvrir le week-end prochain. Certains accusent le grand méchant loup d'Internet d'être en partie responsable de leur malheur, j'ai nommé Amazon.
Le site continue en effet à proposer des produits non essentiels pendant le confinement, alors concurrence déloyale sans doute, pourtant, près de 11 000 entreprises françaises vendent leurs produits via Amazon.
Bonjour Romain Oquet.
Bonjour.
Alors on va d'abord écouter Samuel, créateur de bougies. Il vend via Amazon depuis 3 ans.
C'est une vitrine qui est absolument monumentale. Donc ça nous a rajouté du jour au lendemain une grosse ligne de chiffre d'affaires.
Romain, vous avez contacté des petites sociétés au hasard. Visiblement pour elles, Amazon est devenu un canal de distribution quasiment incontournable.
Oui, parce que pour ces entreprises, les ventes via Amazon, c'est en moyenne 10 à 20% de leur chiffre d'affaires. 15% précisément pour le créateur de bougies que l'on vient d'entendre. Ces produits sont vendus et expédiés par Amazon, où beaucoup de clients ont déjà un compte. Forcément, la transaction est plus simple que sur le site de l'entrepreneur.
Vous allez sur Amazon, vous tombez sur une bougie de notre marque, vous cliquez sur « Acheter » et vous êtes livré demain gratuitement. Sur notre site, ça vous prendrait au moins 3 minutes, quand sur Amazon, ça vous prend 20 secondes.
Alors, ce service a un coût, 40 euros par mois et une commission sur chaque vente. Mais d'après les calculs de Nicolas, vendeur de thé, l'opération reste malgré tout rentable.
Sur des produits à 7 ou 10 euros, ils vont prendre quasiment 50%, donc c'est énorme. Après, il faut savoir que qu'on vende sur Amazon ou à un distributeur type grande surface, pour moi, la commission, elle est à peu près similaire.
Cette PME a donc tout misé sur les ventes Amazon qui lui rapportent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Une dépendance très risquée pour Gérard. Pourtant, même ce libraire s'y est mis en proposant ses livres sur le site.
C'est un rouleau compresseur. Il y a 3 ans, la commission était de 10% seulement. Aujourd'hui, elle est passée à 15%. Ça a été décidé de manière unilatérale. C'est eux qui imposent les règles. 100% des règles. Disons que je fais avec.
Et puis sur la plateforme, ces commerçants cèdent aussi leurs fichiers clients, les meilleures ventes, des données précieuses qu'Amazon est accusé d'exploiter en recréant ces mêmes produits sous sa propre marque.
Romain Noquet, c'est justement à cause de ces soupçons d'utilisation des données de vendeurs tiers qu'Amazon est sous le coup d'une enquête de la Commission européenne. Rendez-vous dans le journal de 8h à présent, le poids réel d'Amazon, les petits commerçants qui organisent des alternatives, la question fiscale, bien sûr, aussi autour d'Amazon, dossier spécial dans le journal de 8h.
Allez, un sourire maintenant, direction Dinan dans les Côtes d'Armor. Là-bas, comme partout, les comédiens sont au chômage technique. Alors la ville en a embauché plusieurs, devinez pourquoi ? Eh bien pour porter les bonnes nouvelles. Oyez, oyez, bonnes gens, voici le reportage de Charles Guyard.
Oyez, oyez !
16h30, au milieu d'un petit square entouré d'immeubles, une voix résonne, puis quelques curieux passent une tête dehors.
Ah, voilà, il y a quelqu'un. Oh, bah, ça fait plaisir.
Coiffé d'une couronne, Christian est accompagné de Mélodie et Morgane.
Deuxième info municipale.
Chaque mardi et vendredi, ces trois comédiens de la compagnie locale Une Aile la Nuit jouent les crieurs de rue à Dinan. Pauline Ciotta, coordinatrice du centre social, à l'origine de l'initiative.
Pourquoi ? Pour redonner le sourire aux habitants, pour pouvoir garder du lien avec eux.
Et l'opération intègre aussi les élèves des 4 écoles publiques invités à rédiger des messages qui seront lus à la sortie des classes. L'occasion de faire un peu d'histoire pour Ahmed en CM2.
Parce qu'au Moyen Âge, je crois, ils n'avaient pas d'internet, donc ils faisaient avec des mots, ils criaient.
Ces textos de rue, en somme, sont une aubaine pour les comédiens rémunérés par la ville.
Le théâtre derrière un écran, c'est plus du théâtre. On préfère le faire en présentiel avec des gens et partager, faire notre métier en fait, tout simplement.
Message personnel transmis via la mairie, information locale, poème.
Merci à tous.
Les crieurs de rue se produisent jusqu'à la fin du confinement.
Et puis, courage, ça va bientôt finir.
Dinan, Charles Guyard, Europe 1.
Il y avait une info à la fin du sujet.
Quand je pense qu'au Moyen-Âge, on n'avait pas internet.
Mais si on cherche une reconversion, ça dit, ils ont de la voix, plus que des gens de radio, ces crieurs de rue.
Et puis, oye oye, le club de foot de Lille a écrasé Lorient 4-0 hier soir. Il conserve sa deuxième place au classement derrière le PSG.
Merci beaucoup Hélène Zélani. Il est 7h13 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.